Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Vous êtes ici chez vous, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse commencer déjà par la prière. Je vais demander de vous le tenir debout, nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, je sens un peu fort, pour ton immense amour, Seigneur, et pour ta grâce envers nous, Seigneur. Durant, Seigneur, toute cette semaine, Seigneur, tu as pris soin de nous, Seigneur. Nous avons traversé des hauts et des bas, éternel Dieu, mais tu as été avec nous, Seigneur. Tu connais, Seigneur, peut-être la persécution que nous avons vécue, éternel Dieu. Mais malgré cela, Seigneur, tu nous as accordé ta grâce, la grâce aussi d'être vivants. Et nous te sommes vraiment, Seigneur, infiniment reconnaissants, Seigneur. Et nous reconnaissons c'est par toi que sont toutes choses, éternel Dieu. Alors encore aujourd'hui, nous désirons te dire merci. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous aussi nous soupirons après toi, Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau, Seigneur. Notre âme espère en toi et soupire en toi, éternel Dieu. Alors Seigneur, c'est dans la joie, Seigneur, que nous venons dans ta maison, Seigneur, simplement te rendre grâce, éternel Dieu. Te rendre grâce parce que tu es l'Éternel, parce que ton nom seul est digne d'être loué, ton nom seul est digne d'être exalté. Alors vraiment, Seigneur, reçois toute notre adoration. Tout est pour toi, Jésus. Alors vraiment, Seigneur, remplis-nous encore de ta force, remplis-nous encore de ta joie, éternel Dieu, et que tous ensemble, nous puissions encore témoigner de toi, témoigner de ta vie, témoigner de ta véracité, Seigneur. C'est vraiment par le bon nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Je voudrais lire avec vous le psaume 30. Il n'est pas très long, 13 versets, qui nous dit, c'est un psaume de David. Il dit, « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu as restauré mon âme. Tu m'as fait revivre de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancelerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, et aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Nous pouvons dire amen à la parole du Seigneur. Amen. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Est-ce que vous avez la joie? Il n'y a pas d'église ce matin. Il n'y a pas d'église ici. Est-ce que vous avez la joie? C'est important de proclamer en fait que vous avez la joie en l'Éternel. David disait, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Et je crois que nous servons le même Dieu que David, n'est-ce pas? Ce même Dieu qui donne la paix, qui donne la joie. Qui nous donne à pouvoir le louer. Il dit que la poussière ne peut pas louer, bien que l'Éternel par sa puissance aurait pu faire la poussière même le louer. Mais nous, il nous a donné des organes, une bouche pour pouvoir le louer. Alors louons l'Éternel, entrant dans ses portes avec des louanges.
reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté.
Seigneur, devant toi, nous voici, Seigneur. Devant toi, Seigneur, nous nous tenons, Seigneur. Nous tenons libres, éternel Dieu. Parce que, Seigneur, toi-même, Seigneur, tu as brisé toutes nos chaînes, Seigneur. Et voilà, Seigneur, nous voilà libres, Seigneur, libres de tout péché, éternel Dieu. Libres de toute culpabilité, Seigneur, parce que tu les as crucifiés à la croix. Oui, Seigneur, le sang de Jésus, nous sauve, nous lave de tout péché, de tout fardeau, éternel Dieu. Alors merci Seigneur pour ce précieux sang. Merci Seigneur pour cette liberté que nous avons en toi. Jésus règne en vous. Amen. Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir l'exalter? À quel moment peut-on exalter notre Seigneur? Comment? Merci, sœur Lisa. Heureusement qu'elle est là, Lisa. À tout moment, nous avons la possibilité d'exalter notre Seigneur. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes tous ensemble réunis. Nous savons que les disciples du Seigneur prenaient soin de se réunir ensemble et louaient Dieu. Et nous avons vu la manifestation de la gloire de Dieu lorsqu'ils étaient tous ensemble. Et nous croyons aussi que Dieu aussi est parmi nous lorsque nous sommes assemblés, n'est-ce pas? Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Acclamez le Seigneur. Amen. Lui qui est le Dieu de vérité, lui qui est le Dieu de toute sagesse. Ô Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment répandre nos cœurs, Seigneur, devant toi, éternel Dieu. Car toi seul, Seigneur, a pu combler, Seigneur, le vide, Seigneur, qui s'y trouvait, éternel Dieu. C'est vrai, parfois, Seigneur, nous doutons de ta présence, Seigneur. Mais tu nous montres, Seigneur, par des signes extérieurs, ne serait-ce que lorsque nous voyons, Seigneur, le soleil se lever, Seigneur, lorsque nous regardons nos familles, éternel Dieu, la vie, Seigneur, que tu nous as donnée. Et parfois, lorsque nous prenons le temps de regarder, Seigneur, tout ce que tu as fait auparavant pour nous, Seigneur, nous voyons, Seigneur, que tu es vivant. Seigneur, nous n'avions pas, Seigneur, les ressources nécessaires parfois pour nous en sortir, éternel Dieu, et nous étions accablés. Et lorsque nous voyons que par des signes, Seigneur, extérieurs ou même intérieurs de nous, Seigneur, tu nous relèves, Seigneur, en sachant qu'au départ, nous n'avions pas la force, Seigneur, de pouvoir nous relever, éternel Dieu. Nous voyons aussi, Seigneur, que tu es vivant. Seigneur, personne n'a pu démontrer, Seigneur, que tu n'existais pas. Et Seigneur, tes disciples ont attesté, Seigneur, que tu es vivant, Seigneur. Et nous l'attestons encore, Seigneur, que tu es vivant. de par la guérison que tu opères en chacun de nous, Seigneur, de par le pardon, Seigneur, que tu mets aussi dans nos cœurs, éternel Dieu. C'est des signes, Seigneur, aussi que tu es vivant, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Merci de nous pouvoir, de nous garantir de tout cela, éternel Dieu. Et je veux vraiment, Seigneur, dans ton assemblée, Seigneur, t'élever, éternel Dieu. Parce que tu es vraiment un Dieu extraordinaire, riche en bonté, compatissant et lent à la colère. Merci, Seigneur, pour le Dieu que tu es. Amen. Seigneur, je veux proclamer ton nom.
Tes œuvres sont parfaites, Seigneur, je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites, un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Tes œuvres sont parfaites, Seigneur, je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites.
Seigneur, aussi te louer, Seigneur, pour effectivement tes bienfaits. C'est un bienfait aussi d'avoir dans cette église, Seigneur, des enfants. Que vraiment, Seigneur, tu puisses encore les bénir en ce dimanche, éternel Dieu, où, Seigneur, ils vont se réunir autour de ta parole. Merci pour toutes les activités qui seront faites, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu puisses leur permettre, Seigneur, de mémoriser tous ces enseignements, Seigneur. Et que tu puisses aussi bénir leur monitrice, au nom de Jésus. Amen. Ceux qui veulent continuer à s'exprimer à haute voix, qui puissent continuer à le faire.
Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Seigneur, je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites. Seigneur, je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites. Un Dieu de vérité et sans injustice.
ressuscité.
Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Tu es puissant, par ton pouvoir ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia.
Amen. Amen. Notre Dieu est puissant. Il est redoutable. Il est merveilleux. Merci parce que je suis content vraiment, hein, à chaque fois je le dis, d'avoir accepté Jésus. Hein. Assez jeune, que souvent on pense que lorsqu'on accepte Jésus jeune, on passe à côté de sa vie, hein, parce qu'on ne profite pas de ce monde, tout ça. Les gens veulent nous faire croire que qu'être jeune, c'est vraiment user sa vie, en fait, comme le font beaucoup de personnes dans le monde, à boire et à faire la fête, les choses comme ça. Et moi, je me suis beaucoup, beaucoup plus amusé, en fait, quand j'étais à l'Évangile. Et maintenant, en fait, quand j'étais jeune, les camps de vacances, les choses comme ça, et les moments d'église, ça m'a beaucoup permis, en fait, de pouvoir m'épanouir. Et je remercie Dieu de m'avoir saisi, que lorsque j'étais jeune, il m'a épargné de plein d'expériences que vraiment qu'il faut éviter et que nos jeunes parfois vivent. Plein d'expériences que nos jeunes vivent lorsque et qui laissent des blessures à l'âge adulte et difficiles à réparer. Et je le dis vraiment avec effusion de sang parce que c'est pas facile d'aborder ce genre de sujet. Lorsqu'on est jeune, on a envie de profiter. Et moi, j'étais jeune aussi. Parfois, j'étais rebelle. Souvent, j'étais un peu têtu. Mais, mais Dieu m'a permis vraiment d'être bien entouré et de suivre utilement les conseils qu'on m'avait donnés. Et j'ai pu voir que notre Dieu était vraiment puissant, était redoutable. Lorsqu'il avait décidé quelque chose pour notre vie, Eh bien, la chose s'accomplissait et était aussi bonne et parfaite. Des fois, on essaie de se détourner de ce que Dieu veut, en fait, finalement, on voit qu'on perd plus de temps Et ça nous crée, ça nous crée de beaucoup de blessures, en fait. Et finalement, lorsqu'on va dans sa volonté, on se dit, ah, on est tellement restauré, reposé. Alors c'est pour ça que j'invite vraiment nos jeunes à encore s'accrocher et à faire la différence dans le monde. Même si on va vous pointer du doigt, en fait, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui ne vous juge pas, qui ne vous pointe pas du doigt et qui vous aime d'un amour parfait. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui s'est livré pour vous, pour, pas forcément pour vous, mais aussi pour moi, pour vos parents, pour l'ensemble de ce monde. Et il attend simplement que ce monde se tourne vers lui. Alors, croyez que notre Seigneur est vivant et croyez qu'il vous aime. Et puis regardez aussi ses bienfaits aussi dans vos vies. Vous allez voir qu'ils sont nombreux, comment Dieu vous a soutenu. Hein, Dieu n'est pas le Dieu seulement compris lorsqu'on passe le bac. Hein. Souvent, c'est ça qu'on fait. Je l'ai fait aussi. Mais après, il nous demande aussi après de le suivre sincèrement. Parce qu'il est fidèle. Il est merveilleux. Alors, est-ce qu'on peut prendre ensemble ce dernier chant ? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, ne baisse pas la tête, mais compte plutôt les bienfaits de Dieu. Et lorsque tu verras, en fait, ces bienfaits, qui seront devant tes yeux, tu verras combien leur nombre en est grand. Et alors tu béniras notre Seigneur, tu béniras notre Seigneur, parce qu'il est le Père qui chaque jour répand ses richesses. Voilà. Alors je compte sur vous pour ce chant, il est assez sportif. Hein. Que tu es un Dieu digne de confiance, éternel Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous parles, Seigneur, même à travers des moments, Seigneur, simplement de chant, Seigneur, lorsque nous te louons, éternel Dieu, tu nous enrichis, éternel Dieu. Alors merci encore pour cet enrichissement que nous aurons aussi à travers ta parole, éternel Dieu. Que vraiment, Seigneur, qu'elle soit donnée avec toute puissance, éternel Dieu. Et que tu puisses encore faire du bien à ton serviteur, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.
pouvez vous asseoir.
Bonjour à tous et à toutes. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Père, comme le sol reçoit la semence, ta parole est pour nous ces germes d'espérance et de vie. Seigneur, accorde à chacun de nous cette grâce, cette attention d'écouter ta parole avec simplicité, avec joie de cœur. Nous bénissons ta parole parce qu'elle est salutaire. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Pendant que nous écoutons ta parole, Dieu de gloire, éloigne en nous tout bruit qui peut nous empêcher, toute voix qui peut nous empêcher, ô Dieu, d'écouter ta parole. Fais-nous grâce pendant que nous l'écoutions, afin que, à la fin, nous puissions mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous passé une bonne semaine? Oui? Par la grâce de Dieu. C'est qu'on a passé par la grâce de Dieu, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, n'est-ce pas? Mais puisque c'est par la grâce de Dieu, nous disons Seigneur, merci pour ta grâce, n'est-ce pas? Oui, gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour nous. Le message, frères et sœurs, de ce matin est centré sur l'encouragement. C'est une exhortation. Alors, si il y a un titre à donner à ce message, écoutez-moi bien. Je m'encourage en m'appuyant sur l'Éternel, mon Dieu. Je m'encourage en m'appuyant sur l'Éternel, mon Dieu. Amen. Pendant que je préparais ce message, je me suis dit, mais Seigneur, accorde-moi la grâce de trouver une histoire, un récit qui pourra m'aider, qui va me servir de tremplin et pour parler à ton peuple. Et le Seigneur m'a montré que je puisse vous parler de l'histoire de roi David. Le roi David. C'est vrai que le roi David a fait beaucoup de choses. Hein, on peut tirer beaucoup d'exemples, beaucoup d'exhortations donc, dans sa vie. Donc, nous n'allons pas lire tous les chapitres. Alors, nous allons prendre 1 Samuel. Je n'ai pas donné ça pour que ça puisse être projeté, mais c'est 1 Samuel au chapitre 27, chapitre 28, chapitre 29 et chapitre 30. Vous voyez, 27, 28, 29, 30. Et les chapitres 30, du premier verset au verset 6. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas lire tout cela, sinon nous allons sortir ici à 15h, 16h. En résumé, voici les contenus du message de ces chapitres. Qu'est-ce que ça englobe pour nous, afin de pouvoir sortir donc, ces titres, « Je m'encourage en m'appuyant sur l'Éternel, mon Dieu ». En résumé, voici les contenus. David est pourchassé par Saül. Nous connaissons bien l'histoire de David. David est pourchassé par Saül et dans sa détresse, il trouva refuge aux Philistins. Dans sa détresse, quand vous allez lire ces textes dans ces différents chapitres chez vous, vous verrez que David, il trouva donc refuge chez les Philistins. Mais il n'était pas seul. Il était accompagné de ses hommes de guerre. Et ces hommes de guerre, ils étaient au nombre au moins des 600 personnes. 600 personnes. Après 1 an et 4 mois, nous connaissons bien qui sont les Philistins. D'ailleurs, le grand Philistin que David a combattu, vous le connaissez très bien. Et ici, David, pour chasser, il dit, mais où est-ce que je vais trouver le refuge? Il alla se réfugier chez les Philistins. Après 1 an et 4 mois, nous dit les textes, de service auprès du roi Achish, roi de Gath, David fut exclu des rangs chassé le rang des Philistins et devait retourner à Tiglath. Tiglath, c'est quoi? C'est une ville que le roi Achish a donnée à David, mais d'une façon temporaire. David avec tout son peuple. Le roi Achish lui a donné cette ville afin qu'il puisse y demeurer. Et David était là avec l'ensemble de sa famille et les familles de tous ces gens de guerre. Et comme il fut exclu du rang des Philistins, le roi Achish aimait beaucoup David, mais il a dit à David, je ne peux pas continuer avec toi, tu es un homme honnête, etc., etc., mais rentre chez toi. Qu'a fait David ? David a pris le chemin avec ses 600 hommes. Ils ont marché pendant 3 jours. Le troisième jour, ils sont arrivés dans cette ville de Tiglath. Et quand ils arrivèrent dans cette ville, qu'est-ce qu'ils trouvèrent ? Les Amalécites sont passés. Ils ont détruit, incendié la ville. Ils ont emporté les femmes, les enfants, petits et grands, les bêtes, tout ce que le peuple, donc le reste de la famille de David et les autres, les combattants, avaient, ils ont pris tout et sont partis avec. David pleura. Il pleura. Et ces gens aussi qui l'accompagnaient pleurèrent tous ensemble. Ils pleurèrent ensemble. Et ils avaient même plus, la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient même plus des larmes, tellement qu'ils ont beaucoup pleuré, les larmes ne coulaient plus. Donc ils ont beaucoup pleuré. C'est fait une désolation pour David. Tous ceux qui s'y trouvaient ont été faits prisonniers. David et ses combattants, bien-aimés, étaient angoissés. Mais surtout David, il était troublé. Angoissé, parce que c'est lui le leader, c'est lui le chef. Il était tellement angoissé. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Le reste, donc ces gens qui étaient avec lui, certains étaient déjà animés de mauvaises pensées. Nous verrons ça dans les textes. Le pensée de lapider David. Ils avaient déjà ces mauvaises pensées de lapider David. Alors, qu'a fait David? Qu'a fait David? Ça, c'est un peu l'historique, le résumé. Mais qu'a fait le roi David devant ces situations? C'est la réaction de David qui nous intéresse, qui est la clé de notre exhortation ce matin. Lisons ensemble, donc là, ce n'est pas projeté, excusez-moi. Nous allons lire le 1 Samuel 30, verset 6. Ce verset nous dit ceci. David fut dans une grande angoisse. Ça, c'est le texte qui l'a dit. Il fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et d'autres de ses filles. Vous vous rendez compte? Ils viennent vers David pour lui dire, mais où sont partis mes enfants? Mes fils, mes filles, ma femme ou mes femmes? Mais David, toujours dans le même texte, il dit, il reprit courage. Voilà. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Qui est le titre de notre message, comme je vous ai dit avant. David s'appuya sur son Dieu. Mais une chose, la réalité de ce grand malheur qui arriva à David. Pourquoi David s'est trouvé-t-il dans telle situation? Simplement parce que David, avant d'aller donc vers le Philistin, il n'avait pas consulté Dieu. David n'avait pas consulté Dieu. Il est parti de son plein gré. Il n'avait pas consulté. Et cet malheur le frappa. Alors, au verset 6, mais David est repris courage. C'est-à-dire que Dieu lui a parlé. David reprit courage, il avait besoin alors de revenir à Dieu. De revenir à Dieu en s'appuyant sur lui en tant qu'homme, selon le cœur de Dieu. David a compris qu'il avait commis une faute. Il n'a pas consulté l'Éternel, des armées, le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant. Il est parti de son propre gré. Et voilà ce qui lui est arrivé. Bien-aimés, mes frères et mes sœurs, combien de fois nous aussi nous sommes retrouvés dans de telles situations? Combien de fois? Parfois même ce matin, nous sommes dans ces situations. Nous baignons, nous vivons dans cette situation. Situation de désespoir profonde, situation de désespoir inexplicable, une situation qui nous dépasse au plan humain. On ne sait plus quoi faire dans ces situations. D'où me viendra le secours? Bien-aimés, nous tous qui sommes rassemblés en ces lieux, nous sommes différents les uns les autres, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi des situations angoissantes qui sont aussi différentes les uns et les autres. Ma situation qui m'angoisse aujourd'hui n'est pas, par exemple, celle de mon frère Henri ou de notre pasteur, etc., etc. Nous sommes différents et nous avons aussi nos situations, nos difficultés, nos épreuves différentes. Alors, que faire? C'est pourquoi pour nous, il est indispensable que nous puissions avoir chacun et chacune des ressources spirituelles et bien-aimées personnelles. Et ces ressources qui nous permettront de trouver le moyen, les moyens pour nous en sortir. Chacun de nous. Parce que nous avons des situations différentes et nous devons aussi aller vers Dieu à qui nous allons nous appuyer dans nos situations et plaider notre cause. Ces moyens, encore une fois, c'est que je m'encourage en m'appuyant sur l'Éternel. Dans ma situation, je m'encourage, je me fortifie en m'appuyant sur l'Éternel, mon Dieu. Alors, comment m'encourager? Alors, comment me fortifier? Premier point, nous allons voir quelques points ensemble. Le premier point, je me fortifie en me rappelant ce que Dieu, tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ne me courbe pas dans le poids de ma situation, mais dans un premier temps, je me fortifie. Je me fortifie en me rappelant tout ce que Dieu a fait pour moi. Nous venons de chanter un cantique. Ce cantique qui nous dit bien, compte le bienfait de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, nous verrons que le nombre en est grand pour chacun de nous. Amen. C'est pourquoi les psalmistes, le psaume 103 au verset 2 nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pourquoi je me fortifie en m'appuyant, en me rappelant de ce que Dieu, tout ce que Dieu a fait pour moi. Depuis que je me suis converti, même avant ma conversion, mais j'oublie certaines choses. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Il a fait tant de choses et il continue à en faire encore aujourd'hui. Bien-aimés, Dieu notre Père, il nous a comblés. Il nous comble et il nous comblera encore des bienfaits incontables. Parce qu'il est Dieu. Regardez vous-même la joie que vous exprimez ce matin. Quand je regarde vos visages, vous exprimez la joie. Cette joie vient de qui? De l'Éternel. Quand lui-même il dit que ma joie, c'est votre force. Donc, je suis dans la joie d'aller dans la maison du Seigneur. C'est une force pour chacun de nous. La vie en elle-même, tout au long de la semaine jusqu'à dimanche, qui nous a donné la vie? En vous saluant les uns les autres, comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, que la vie en elle-même, et c'est une grâce que Dieu nous donne. C'est un bienfait de vivre. C'est un bienfait de vivre. Et nous voyons que c'est lui qui nous donne cette vie. Le pardon. Nous avons pleinement pardon en lui. Dieu nous fait miséricorde. Mais qui suis-je, moi, pour ne pas pardonner l'autre? Même si je me suis chamaillé avec mon frère, ma soeur, ma femme, mon mari, même si je me suis chamaillé avec... Mais qui suis-je pour ne pas pardonner quand Dieu lui-même me pardonne? Mais c'est un bienfait de l'Éternel. Ne passez pas à côté de ces grands bienfaits, le pardon, la protection. Vous êtes là, qui vous a protégé tout au long de la semaine? Mais c'est lui. La guérison. Ah, la guérison. Moi-même, j'étais malade. Mais qui m'a donné la force d'être là ce matin? C'est lui. Dieu nous soutient. Il nous rassasie de bien. Il nous donne à manger. Il nous donne à boire. Il réjouit nos cœurs. En un mot, Dieu, bien-aimé, nous fait grâce chaque jour. Chaque jour, il nous fait grâce. Donc, rappelons-nous, dans un premier temps, des bienfaits de l'Éternel qui sont incontables dans chacune de nos vies. Quand nous regardons Samuel, Samuel avait dit quelque chose d'important. Il a dit ceci, que l'Éternel m'a toujours secouru. Qui peut dire le contraire ce matin, que Dieu ne m'a jamais secouru, il m'a oublié? Non. Dieu, Samuel a compris que Dieu l'a toujours secouru. Et nous aussi, Dieu nous secoue toujours. Il n'abandonne pas ses enfants. Deuxième point, je me fortifie en me souvenant de ses promesses. Au lieu de regarder encore de ressasser mes problèmes, moi, je me fortifie, je m'encourage dans ma situation en me souvenant des promesses de Dieu. Dans la parole, il y a plus de 800 000 promesses. Et chaque promesse, dans un contexte bien défini, que ce soit la maladie, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, etc., etc. Il y a des promesses de Dieu. Peuple de Dieu, à chaque moment de notre existence, alors que nous cherchons, parfois nous tâtonnons, donc devant des problèmes, nous cherchons la face de Dieu, une épreuve particulière qui nous attrape, donc nous disons, mais Seigneur, je suis étreint de cette épreuve. Dieu, sachez-le que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié et bien aimé, parce qu'il nous a fait des promesses. Il a toujours répondu d'une façon ou d'une autre à nos cris. Je peux lui demander aujourd'hui, ça peut faire un an, ça peut faire deux ans, ça peut faire trois jours, ça peut être quelques heures, comment Dieu a répondu à Isaïe, donc une réponse physique, directe. C'est là où nous pouvons dire que, bien aimé, Dieu répond toujours. Mais il y a quelque chose qui nous encourage quand même. Jérémie 29 au verset 11 nous dit, « Car je connais, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est Dieu. Ça, c'est une belle promesse. Dieu, en nous créant, Dieu, en nous choisissant, il ne nous a pas donné un projet qui va nous faire souffrir. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et toujours dans le même chapitre, 29 au verset 12, il nous dit, « Vous me prierez et je vous exaucerai. » Vous vous rendez compte? Vous me prierez, je vous exaucerai. Quand nous prions, nous demandons à l'Éternel, il va exaucer. Jérémie, il dit ça. Samuel a dit, l'Éternel vient toujours à mon secours. Et Jérémie, lui, comprend que, oui, Dieu m'exauce toujours. Qu'a dit Dieu à Josué? Il lui a dit, Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Il savait que la situation devant lui est difficile, mais il l'a encouragé. Il lui a dit, va. À Gédéon, il lui a dit, mais moi, je n'ai pas de force, mais va avec la force que tu as. Va combattre. Et il est allé combattre avec la force que Dieu lui a donnée. Notre Dieu a fait de même. Il a fait de même pour David. Il a fait de même pour Abraham. Il a fait de même pour Moïse. Job, Paul, Pierre, Jean, etc. Et plus près, c'est nous. C'est Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qu'il a fait pour nos aïeux dans la foi, il est aussi le même de le faire aussi et de l'accomplir dans nos vies, bien-aimés. Troisième point, je me fortifie en lisant le plus souvent la parole de Dieu. Je me fortifie en lisant le plus souvent la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme vous le savez, c'est une lumière. C'est elle qui nous éclaire chaque jour. Dans Matthieu, la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les Écritures, bien-aimées, sont inspirées de Dieu pour nous nourrir spirituellement, pour nous encourager, pour nous éduquer, pour nous corriger, nous réconforter, et bien-aimés, nous instruire et nous fortifier. Donc, nous devons nous y plonger, tous les jours dans la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons une promesse pour ma situation. Ah, mais Seigneur, merci. Tu m'as éclairé dans mon problème ou dans le problème de mon frère, de ma soeur. Et je prie et le Seigneur exauce. Amen. Donc, la parole de Dieu est vraiment bénéfique, salutaire pour chacun de nous. Et tout au long de notre vie ici et bas, nous avons besoin de la parole de Dieu bien-aimé. Quatrième point, je me fortifie en obéissant à tout ce qui est écrit dans les Écritures. Certes, je lis la parole de Dieu, mais je dois aussi obéir à cette parole. Je dois aussi obéir à cette parole. Donc, aujourd'hui, nous devons être des enfants obéissants à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. 1 Samuel 15, verset 22-23, nous réconforte en ces termes. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Combien de fois nous posons le doigt sur quelqu'un qui est idolâtre? Et moi, je suis désobéissant à la parole de Dieu, je suis pareil comme lui. Combien de fois je regarde les kembovazers, le féticheur, tous ces gens-là, je dis, mais ceux-là, ils ne sont pas comme moi, moi je ne suis pas comme eux. Mais pourtant que nous sommes pareils. Quand on désobéit à la parole de Dieu, c'est aussi coupable que la divination. Je me fortifie en me tenant dans le calme devant la face de Dieu. Ésaïe 30, verset 15 nous dit, c'est dans la tranquillité, pardon, et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimés, quand nous sommes devant des problèmes comme David était, comme les autres, Jacob, etc., qu'est-ce qui nous arrive en tant qu'humains? Nous sommes agités devant ces problèmes. Nous tâtonnons, nous cherchons parfois des solutions nous-mêmes. Nous sommes angoissés. Mais il faut savoir une chose, que si nous restons dans cette position angoissante où nous tâtonnons nous-mêmes, comment l'Éternel, notre Dieu, peut venir à notre secours? C'est vrai, l'Éternel nous connaît. Il sait que nous sommes des humains. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Il savait ce qui allait arriver à David, que David allait désobéir, n'allait pas le consulter. Il savait et il était là avec lui. Il ne l'a pas abandonné. Mais regardons de l'autre côté de la médaille. De l'autre côté, aujourd'hui, si nous sommes agités, angoissés, comment l'Éternel viendra-t-il à notre secours? Comment pourrions-nous recevoir la paix, bien-aimés, la joie et d'autres bienfaits de l'Éternel? Donc, apprenons à nous concentrer sur l'Éternel, apprenons à nous appuyer à l'Éternel, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, tout en sachant que nos problèmes ne sont pas plus élevés ni plus grands que l'Éternel, notre Dieu. Nos problèmes sont plus petits. Il a toujours une ou des solutions à chacune de nos problèmes. Il a toujours des solutions, notre Dieu. Donc c'est pourquoi David a compris que non, dans cette angoisse, dans cette difficulté, je dois m'appuyer sur l'Éternel, mon Dieu. Donc appuyons-nous dans nos problèmes, dans nos angoisses, dans nos difficultés, etc., sur notre Dieu qui a des solutions à tous nos problèmes. Sixième point, je me fortifie en prenant conscience que c'est Dieu qui me justifie. Vous savez, nous pouvons, quand nous sommes devant un problème, parfois on s'interroge. On dit, mais Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ces problèmes? En tant qu'humain, on se pose des questions. Mais Seigneur, mais qu'ai-je fait pour mériter ces problèmes? Comment tu m'as laissé arriver jusque-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On se pose tant de questions quand on est angoissé, quand on est troublé, quand on a des problèmes, mes bien-aimés. Mais écoutez ce que Dieu nous encourage. Il nous dit dans Romains 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc je m'appuie donc en prenant conscience que c'est Dieu qui me justifie. Donc si je m'appuie sur celui qui me justifie, alors c'est Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Qui sera contre nous? Personne. Dans Romains 8, au verset 33, il dit ceci. Ah, vous savez, Satan, son nom c'est qui encore? C'est un accusateur. Satan, il nous accuse tous les jours. Tous les jours, il nous accuse. C'est son travail. Alors, nous devons être vigilants. Comme on peut dire dans un terme aguerri, des soldats aguerris, qui n'ont pas peur du malin, parce que nous avons confiance à notre Dieu, qui est au-dessus de tout. C'est lui qui vit en moi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est tout puissant. Alors, Satan, cet accusateur, Romains 8, verset 33, nous dit, mais qui accusera les élus de Dieu? Nous sommes les enfants de Dieu. Qui va nous accuser? C'est Dieu qui nous justifie. Donc les accusations de Satan n'ont pas de pouvoir sur moi. Et nous verrons un peu pourquoi je l'ai dit. N'ont pas de pouvoir sur moi. Un roi, verset 8, chapitre 8, pardon, verset 23. Le Seigneur est celui qui rend justice à l'innocent. Vous savez, au travail, on peut arriver qu'on vous accuse de tort et de travers. Ton responsable t'appelle, mais regarde ceci. Et c'est ça qui m'est arrivé personnellement cette semaine. En préparant ces textes, j'ai dit, mais Seigneur, on m'accuse de tort et de travers. La responsable m'appelle, la directrice. Elle me dit, mais Adrien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un client qui est venu dire que, voilà, ça fait 40 minutes, et puis on t'a appelé, et puis tu n'es pas venu la servir. Il a attendu 40 minutes. Je lui dis, madame, 40 minutes, je suis déjà à Marseille, n'est-ce pas? Un exemple, j'exagère un peu. Je suis à Marseille dans 40 minutes. Avez-vous déjà vu un client ou une cliente qui peut attendre un conseiller des ventes pendant 40 minutes? Premier point. Il m'a dit, mais oui, Adrien, c'est pourquoi je t'appelle, parce que ça, ce n'est pas dans ta façon de faire. Je ne crois pas à cela. Moi, j'ai dit, moi non plus. Oui, certes, on m'appelle. Mais sache-le une chose, madame. Je m'occupe de deux rayons, la quincaillerie et la plomberie. Quand je suis avec une personne à la quincaillerie, je ne peux pas me partager, mais démultiplier pour aller de l'autre côté. Qu'est-ce que je dis? Je dis à la personne qui m'appelle, dites à la cliente ou le client de m'attendre. Donc si lui, il a trouvé que le temps était assez long parce que j'étais avec l'autre, madame, mais je ne peux pas aujourd'hui indisposer la cliente qui était en face de moi. Alors, c'est à vous de prendre la décision. Il dit, moi, je n'ai pas de décision à prendre, je supprime tout ça. Donc, c'est là où nous pouvons voir, bien aimé, que le Seigneur est celui qui rend justice à l'innocent. Et le traite selon son innocence. Parce que quand vous êtes avec la personne qui vous inculpe, etc., ou qui veut apprendre quelque chose, Dieu est là. C'est lui qui donne les paroles à l'autre. C'est lui qui est entre vous deux. C'est lui qui juge. Et il traite l'innocent selon son innocence. Amen. Dieu est bon. C'est pourquoi nous devons comprendre une chose, que la justice de Dieu, bien-aimé, est infaillible, mais celle des hommes est imparfaite. Je me fortifie en marchant dans la pureté, dans la sanctification. Nous connaissons d'un homme intègre dans la Bible qui s'appelait comment? Job. Ah, il a beaucoup souffert. Hein? Moi, je me suis dit, mais si j'étais à la place de Job, est-ce que j'allais tenir? J'ai dit, Seigneur, je ne passe pas. J'allais être par terre. Mais bon, c'est Dieu qui nous renouvelle. Peut-être j'allais tenir. Peut-être nous allions tenir. C'est Dieu seul qui sait. Mais quand on lit l'histoire de Job, nous constatons que c'est difficile. Mais Job, dans chapitre 17, verset 9, il dit ceci. Les justes néanmoins demeurent fermes dans sa voie. C'est lui qui a les mains pures. Se fortifie de plus en plus. C'est lui qui a des mains pures, se fortifie de plus. Donc, se fortifie de plus en plus. Je me fortifie en marchant dans la pureté, je me fortifie en marchant dans la sainteté. Dans mes problèmes, il faut que je sois pur. Job était cet homme intègre. Et il y en a d'autres, hein? Il n'y a pas que lui. Même aujourd'hui, il y a des hommes intègres et des femmes intègres dans notre société. Il y en a, les enfants de Dieu. Si nous nous efforçons de marcher dans la pureté, la sainteté de Dieu, le Seigneur sera toujours à nos côtés. Parce que Dieu est saint. Il est saint. On dit même qu'il est trois fois saint. Et cela est juste. Oui, Dieu est saint. Dieu ne veut pas voir l'impureté dans chacune de nos vies. Mais c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos imperfections. Il connaît nos chutes de chaque jour. Nous les chantons. Il connaît nos chutes de chaque jour. Et c'est lui-même qui dit que voilà, que quand le juste tombera sept fois, c'est moi qui vais le relever encore sept fois. Ça, c'est Dieu. Dieu plein de compassion, plein d'amour. Il ne veut pas que nous souffrons davantage. Il a toujours des solutions. Il a toujours les moyens de nous en sortir dans nos problèmes. Mais c'est Dieu, parfois, il dit non, nous devons passer par la correction. S'il veut nous corriger, c'est son plein gré, c'est sa volonté souveraine. C'est Dieu, il nous aime et il nous corrige. David a été corrigé, il a accompli, il faut qu'il revienne à Dieu, se repentir et aller de l'avant. Nous aussi, bien-aimés, nous pouvons aussi passer par des étapes difficiles, des moments difficiles. Dans un premier temps, je regarde ma situation, pourquoi suis-je dans cette situation? Si cela me demande une repentance, répands-toi. Si cela me demande que je dois aller demander pardon, vas-y, etc., etc. Dans chaque domaine, regarde la causalité de ton problème et vas-y. Peuple de Dieu, dans ce monde souillé par le péché, assombri par la mort, rempli, bien-aimé, d'impureté de tout genre, quand cette prière ce matin, on a entendu la pornographie, les ceci, tant de choses qui se passent dans ce monde. L'adultère, les divorces, etc. Tant de problèmes qui font souffrir les gens, chrétiens et non chrétiens. Bien-aimés, préservons-nous de toute forme de souillure. Préservons-nous de toute forme de souillure et veillons à la santé spirituelle de notre âme. Mon âme bénit l'Éternel et oublie de aucun de ses bienfaits. Mais cette âme-ci est... elle est agitée, elle souffre, elle passe à un moment impur. Comment veux-tu qu'elle puisse bénir les bienfaits de l'Éternel? Donc la repentance est primordiale. Dans chaque situation, il faut toujours regarder. N'oublions pas que notre âme a besoin d'être préservée de toutes ces souillures, pardon, car nous avons été rachetés à un grand prix. Christ est mort, non pas en vain. Mais Christ, il est venu pour nous sauver, nous donner la vie. Et il a accompli cette œuvre salvatrice sur la croix. C'est pourquoi nous disons, mais Seigneur Jésus, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Jésus. Il a tout accompli pour lui. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui, en Christ et Jésus. Alors, Jésus est notre modèle par excellence. Jésus, c'est notre grand frère. Nous devons le suivre à chaque pas. N'oublions pas aussi, même si nous avons été rachetés à ces grands prix, mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Demeure de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Il demeure en nous. Alors comment voulez-vous que je puisse souiller ces temples du Saint-Esprit? Je me fortifie en m'attendant au secours du Seigneur. Vous savez, en nous entendant au secours du Seigneur, Dieu nous donne la force, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas agités, nous ne sommes pas troublés. Parce que la parole de Dieu nous dit que la réponse de l'Éternel, le secours de l'Éternel vient toujours. Même si ça tarde de venir, sachons-le qu'elle viendra toujours. D'où alors, moi, je dois attendre les secours du Seigneur, non en murmurant, non en m'agitant, mais en silence. Moïse a compris cela. On chante même ce cantique qui nous dit que l'Éternel combattra pour moi. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je garderai le silence. Je garde le silence, c'est l'Éternel qui combat. devant la mer Rouge, nous avons vu ce qui s'est passé. Vous connaissez bien l'histoire et la suite. Mais, bien-aimés, attendons le secours du Seigneur, pardon, en silence. Dans nos problèmes, dans nos situations, fortifions-nous en attendant les secours du Seigneur en silence. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Amen. Et j'aime beaucoup, c'est peut-être mes frères, mes bien-aimés vont dire, mais chaque fois je le répète, mais j'aime beaucoup le psaume 37. C'est le psaume 37 où Dieu nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il agira. Alléluia. Donc Dieu n'oublie pas ses enfants. Je suis devant un problème, un fait accompli, une situation que moi je ne peux pas débloquer, que lui seul peut débloquer. Il me dit par contre d'abord, mon fils, ma fille, recommande-moi ton problème. C'est à nous d'aller vers Dieu. C'est ce que David a fait. Il est allé, il a reconnu sa faute, il est allé vers l'Éternel. C'est repentir. Donc, mais nous ici, ce verset nous englobe en disant que recommande ton problème à l'Éternel. Ma situation est difficile, je la recommande à Dieu. Et qu'est-ce que je fais après? C'est toujours moi. Je place ma confiance. Donc je m'appuie sur ses promesses. Je me fortifie sur ses promesses. Quand il dit, ton problème, je le connais. Appuie-toi sur moi. Fais-moi confiance. Et quand je le recommande, je lui fais confiance. Et papa, il est là. Il dit, ok, mais non, j'ai compris. Je vais agir pour toi. Je vais maintenant agir pour toi. Et moi, je reste dans la paix, dans le calme, dans le calme. Parce que Dieu, vous savez une chose, Dieu s'engage pour nous secourir. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu s'engage pour nous soutenir. Il y a Spurgeon, cet homme de Dieu du 18e siècle, qui disait une chose qui m'a beaucoup fait aussi du bien, et tous ceux qui ont lu le livre. Il a dit que quand nous sommes dans la détresse, quand nous passons par des moments difficiles, je n'ai rien à manger ni à boire, Dieu s'engage pour moi. C'est-à-dire que Dieu peut aller aujourd'hui dévaliser la mer pour me donner à manger. Les enfants d'Israël, dans le désert, ils n'avaient rien à manger. Dieu a fait pleuvoir les cailles sur eux. Dieu est capable, il s'engage à nourrir son peuple. Et prenons cet exemple dans notre situation. Donc Dieu est capable de m'en sortir dans mon problème. Dans ces problèmes que je vis aujourd'hui, il est capable de m'en sortir. Parce qu'il n'oublie pas ses enfants. Et moi alors, comme le premier point, je ne peux pas oublier aussi ses bienfaits de chaque jour sur moi. Je me fortifie en me tenant dans la prière au pied du Seigneur. Veillons et prions. Ça, je vous encourage de veiller et de prier. Partout où nous sommes, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en voyage, je roule. Donc, prions, veillons et prions. Afin de résister à l'ennemi. Il nous bombarde chaque jour, il nous envoie des missiles. Mais tant que je prie, je discerne, je prie et j'ai la victoire. J'ai la victoire. Donc, veillons à cela. Prions aussi les uns pour les autres afin de nous encourager et nous fortifier. Enfin, dernier point, je me fortifie en adorant Dieu. Je me fortifie en adorant Dieu. C'est ce que nous avons fait avant ce message. Nous avons chanté, nous avons glorifié Dieu, nous avons reconnu ses bienfaits par des interventions dans la prière de reconnaissance. Et voilà ce que Dieu a fait pour nous. Mais il y a quelqu'un qui a compris tout cela. Ces richesses infinies de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Quand il nous lit dans Éphésiens, je vais lire ce texte, Éphésiens 3, 14 à 19. Il nous dit ceci. À cause de cela, Paul donc, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. On a vu 10 points ensemble. Je me fortifie, je m'encourage à m'appuyer sur Dieu. Et maintenant, venu le moment de l'adoration, l'apôtre Paul dit, mais nous avons des richesses, les richesses des gloires, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur qui est agité, l'homme intérieur qui souffre, l'homme intérieur qui n'a pas la paix. qui cherchent des solutions. Mais Dieu nous dit que vous serez puissamment fortifiés. Donc, devant vos situations, devant vos problèmes, bien-aimés, nous sommes puissamment fortifiés. Je continue la lecture. Puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Paul l'a bien compris que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est la foi éternelle. Christ, c'est la foi pour nous. Donc, quand on a Christ, bien-aimé, notre foi reste costaud, solide, enracinée en lui. Et voilà même le texte qui dit, « Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous voyez, donc que vous soyez, pardon, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est merveilleux. Quelle conclusion donner ? Nous sommes à la fin. Je ne sais pas si vous avez un autre moyen, mais moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas un autre moyen par excellence dans mes problèmes, dans mes soucis, dans sa globalité, sur qui m'appuyer pour me fortifier, sur qui m'appuyer pour avoir des solutions. Moi, je n'ai pas un autre moyen par excellence, si seulement pour vous dire encore ce matin, bien-aimés, donc appuyons-nous sur notre Dieu dans tous nos problèmes. Nos problèmes ne sont pas plus grands que Dieu. Alors, continuons à adorer notre Seigneur, c'est ce que l'Éternel réclame pour chacun de ses enfants. Et c'est là, Dieu est merveilleux, nous verrons sa gloire quand Christ viendra nous rechercher. Amen. Fortifiez-vous et prenez courage.
Voilà, merci Seigneur pour cette parole qui nous a été donnée, qui nous encourage encore. Hein. Je vous en passer à notre moment.